Utopod 011, 20 septembre 2007, Fatalité est le filtre de François Rouillet. Bonjour tout le monde et bon voyage à bord d'Utopod, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Au menu aujourd'hui, une émission en tout point exceptionnelle, puisque nous vous proposons la lecture de non pas un, mais deux textes, chacun inédit. C'est aussi une première puisque nous accueillons, dans cet épisode, un auteur suisse, François Rouillet. Essayiste, nouvelliste, critique, illustrateur, ce pharmacien de profession qui a plus de 10 cordes à son arc est membre du conseil de fondation de la Maison d'ailleurs, musée suisse consacré à la science-fiction et basé à Yverdon-les-Bains. En récompense de son merveilleux lexique, 100 mots pour voyager en science-fiction, paru aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2007, catégorie essai. Notre première lecture vous propose Fatalité, une nouvelle très courte, une short-short, comme diraient nos amis anglophones. La seconde partie de l'épisode vous fera découvrir Le Filtre, un texte moyennement court, bref, une short Bermuda. Le lecteur de ce jour n'est autre que l'incomparable Philippe Hertig, lequel a déjà lu pour Utopod une nouvelle de Jean-Pierre Andrevon, Goûter, savourer, en reprendre, diffusée dans notre sixième épisode. Et maintenant, levez votre bouclier anti-fatalité, ajustez votre filtre à contingence et place à la littérature.
Fatalité de François Rouillet. Dans l'univers A, Max Lagardier, qui avait trop bu, trébucha dans l'escalier de sa cave et s'assomma au bas des marches. Dans l'univers B, Max Lagardier, très aviné, manqua la main courante fixée le long du mur. Il roula jusqu'au sous-sol, le crâne fondu. Dans l'univers C, Max Logardes, sous l'effet de 6 verres de cognac éclusés coup sur coup, glissa sur le carrelage. Le malheureux bascula dans la cage d'escalier et atterrit tête la première sur le béton. La loi des séries, qui régit le parallélisme des mondes, se propagea jusque dans l'univers W. Mais là, la science avait prévu une parade. Max Lagardeau se plaça face à la rampe, son bouclier anti-fatalité tendu devant lui. Machinalement, il s'en récita le mode d'emploi. L'appareil détecte toute vague d'événements tragiques survenant dans les réalités adjacentes. Si la sonnerie d'alarme retentit, saisissez la plaque par ses poignées latérales et élevez-la verticalement à la hauteur du torse. Le front d'onde funeste, dit aussi effet domino, rebondira sur le métal et l'enchaînement de malheurs sera rompu, sans vous affecter. Mais Max Lagardeau avait forcé une fois de trop sur le calvados. Il ne réalisa pas qu'il tenait le bouclier à l'envers. L'onde de choc lui arriva dans le dos, poussa la plaque et le vit tomber en avant. Au contact du ciment, son front éclata avec un bruit mûr. Le filtre de François Rouillet. Gilles d'Albin avait sacrifié sa fortune, sa vie de famille et 4 décennies de savant labeur à un seul projet, la construction d'un filtre à contingence. Maintenant la machine était prête. Elle consistait en une membrane tendue tant bien que mal sur un cerceau de métal, lui-même relié à un fouillis de câbles et de boîtiers qui remplissait un hangar du sol au plafond. Le principe du filtre combinait plusieurs théories traitant de physique des particules et des sous-particules. Selon cet échafaudage, toute matière se composait de 2 plans de réalité. Un plan contingent, fait d'attirances et de répulsions élémentaires, qui déterminait la position des objets dans l'univers et leurs interactions réciproques. Et un plan subtil, subcorpusculaire, où la nature profonde des choses était secrètement enclose. Le filtre à contingence, escomptait le physicien, établirait une distinction claire entre ces deux états. Lorsqu'il ferait passer un corps à travers la membrane, celle-ci en séparerait la matière brute de ses composants éthérés. L'essence des objets testés, affranchie de ces liens, franchirait la fine barrière, tandis que leurs constituants spatio-temporels primaires, refoulés, retomberaient en scories grossières. Gilles plaça un verre sur le plateau de la machine. C'était un gobelet de facture industrielle, épais, sillonné d'inélégantes cannelures. Le plateau glissa latéralement et poussa sa charge en direction du filtre. La surface verticale s'irisa, bruissa de craquements électriques et absorba le verre tout en recrachant un peu de poudre mate. Derrière la membrane, apparut une coupe scintillante. Le verre robuste s'était attiré en une corolle de cristal dressée sur un pied longiligne, d'une finesse incomparable. Gilles la souleva pour l'observer de plus près. « Le verre idéal », siffla-t-il d'admiration. « Le chef-d'œuvre dont auraient osé rêver les plus grands maîtres verriers. » Une pièce soufflée par les lèvres d'un ange. La merveille ne pesait rien entre ses doigts. Il la déposa en douceur sur une caisse vide où elle tinta d'une note suave. Lorsqu'enfin il parvint à détacher son regard de la coupe, l'expérimentateur se saisit de la cage de treillis qu'il avait préparée pour son deuxième essai. Une tourterelle y était enfermée. Il approcha la cage de la machine et l'ouvrit toute grande, à quelques centimètres du filtre. D'un coup d'aile, l'animal jaillit de sa prison et se jeta sur la membrane. Un tourbillon de duvet sale et de squame malodorante signala sa traversée et il surgit de l'autre côté, propulsé par son élan. Ce n'était plus un volatile, une créature de chair et de plumes, mais une quintessence d'oiseau, un phénix délivré de la pesanteur, une colombe biblique. Elle s'envola sous le plafond du hangar, son plumage traçait dans l'air poussiéreux une traînée de lumière blanche. Un sillage qui semblait calligraphié par l'Esprit Saint. Gilles tomba à genoux, dans une extase presque religieuse. Quand la tourterelle eut disparu de sa vue, échappée par une lucarne pour des cieux plus propices à son essor, le physicien se releva, débordant d'une heureuse certitude. Sa résolution était prise. Il se déshabilla entièrement et s'approcha du filtre. « Enfin, se dit-il en tremblant, je vais connaître l'aboutissement de mes recherches et devenir celui auquel tout mon être aspire. Je serai un parangon d'humanité, l'homme majuscule et éternel, l'idéal de Platon fait chair. » Et il traversa la membrane. Inutile de rappeler ici ce qu'il advint publiquement de Gilles d'Albin après sa transfiguration. Les innombrables sanctuaires, statues et œuvres d'art à son effigie sont là pour témoigner de la ferveur universelle dont il fit l'objet. Chacun de ses gestes devint un canon esthétique, chacune de ses paroles une sentence sacrée. Dès qu'il parut aux yeux du monde, il ne suscita que louanges, transcollectives et pâmoisons de masse. Aujourd'hui, ce culte est devenu une religion mondiale. La première de toute l'histoire à vénérer un dieu vivant, à jamais présent parmi ses ouailles. Mais la planète, tout à son adoration béate, ignore toujours comment l'intéressé vécut son ultime expérience. Gilles, donc, traversa la membrane, abandonnant derrière lui un petit tas de cellules défectueuses, de tissus fatigués et d'autres déchets peu ragoûtants. Mais à peine eut-il posé le pied de l'autre côté du fil qu'il se sentit étouffé. Cet étouffement n'était pas physique, car ses poumons régénérés n'avaient jamais respiré avec tant d'ampleur. Non, ce qui lui donnait l'impression de manquer de souffle ne venait pas de son nouveau corps, mais de la compression de son contenu. Gilles se trouvait soudain réduit de l'intérieur, concentré à l'extrême, terriblement à l'étroit en lui-même. Il fit quelques pas sur le dallage de son laboratoire. Sa démarche était assurée, souple, d'une prestance athlétique. Mais au lieu de s'en émerveiller, il ressentit chaque mouvement comme une affreuse contrainte, comme si un carcan lui imposait de poser le pied à tel endroit et à nul autre. Il agita les bras, ses moulinets se coulèrent en gestes de danse, à la fois aériens et précis, qu'il exécuta contre son gré, entraîné par les ficelles d'un marionnettiste invisible. Il voulut crier son désarroi. Son larynx émit de vibrantes vocalises, escaladant les registres vocaux, des basses de baryton au trémolo de haute contre. Son malaise devint un supplice. Le moindre de ses déplacements se changeait en ballet, en exquise virevolte, en pirouette d'acrobate. Ses prouesses l'entraînaient, malgré lui, sans qu'il pût en modifier ni la forme ni l'élan. Ses paroles jaillissaient en pluie de sublimes vérités. Même ses pensées échappaient à son contrôle pour formuler des idées toujours nobles. Des intentions émérites devançaient sa volonté. De grands desseins asphyxiaient ses désirs. Gilles comprit que désormais il n'aurait plus à vouloir ou à espérer, puisqu'en tout point, il était déjà accompli. Cette réalité lui donna envie de hurler, mais ses cris se muèrent en un chant mélodieux, et ses premiers adeptes accoururent, transportés par son message d'allégresse.
Et voilà, messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas à l'occasion de nous faire un petit coucou depuis notre site www.utopod.com. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous inscrire à notre podcast depuis notre page d'abonnement, le geste est aussi simple que gratuit. Cela dit, en passant, nous souhaiterions vous parler d'un artiste dont nous admirons énormément le travail, Jean-Pierre Vaufray. Jean-Pierre est un éphaïstos des temps modernes. Il sculpte, coupe et soude les métaux pour en faire naître des œuvres de rêve dignes de vos meilleurs cauchemars. Né à Morteau, en France, dans le département du Doubs, ce poète de l'acier a travaillé pour Hans-Rudi Giger et a exposé ses œuvres à la Maison d'ailleurs ainsi qu'au fameux festival nantais des Utopiales. Nous vous invitons à découvrir son univers depuis son site www.technokarma.org. Vous trouverez également ce lien sur utopod.com dans l'article d'accompagnement de l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, Lucas et moi vous souhaitons une agréable fin de semaine et vous donnons rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures à vous dresser les poils des oreilles.